Vous avez déjà probablement entendu parler de ce qu'on appelle le speed dating. C'est quelque chose que je trouve personnellement assez glauque. Il consiste à deux personnes, deux célibataires qui ne se connaissent pas, de pouvoir se présenter en simplement quelques secondes, quelques phrases, et puis ensuite un autre candidat passe. C'est très glauque. Il y a une autre forme de speed dating qui existe, c'est celui d'un entretien d'embauche, où l'on se retrouve, on a tous fait cette expérience, où on se retrouve devant un patron et on a quelques phrases, quelques poignées de secondes pour le convaincre de nous embaucher. Et c'est quelque chose, quand on doit le faire, qui nous met mal à l'aise. Comment choisir ce qui est essentiel de dire à propos de nous, comment convaincre d'être embauché ? Bien, il se trouve que c'est quelque chose que Paul lui-même a été expérimenté à faire vis-à-vis d'une église qu'il ne connaissait pas, non pas pour être embauché, mais pour les prévenir de sa visite. Paul voulait leur adresser un petit peu une présentation de lui-même et un testament. Et Paul réussit d'une façon extraordinaire à condenser en quelques phrases ce qu'il est, ses convictions et sa mission. C'est stupéfiant de faire ça. Imaginez dire vous-même, vous présenter en quelques phrases qui vous êtes, vos convictions les plus profondes et votre mission sur Terre, votre rôle sur Terre. Il faudrait, enfin moi personnellement, j'aurais du mal vraiment en 3-4 phrases maximum. Dans le grec original, il y a deux phrases que Paul utilise, deux phrases arriver à contenir tout ça. Eh bien, Paul réussit ça et on le découvre et vous allez voir que dans cette peut-être rallume, clique juste dessus s'il te plaît. Voilà, merci. Que dans cette non, il y a un petit problème de. Bref, passons-nous du PowerPoint, c'est pas grave. Dans ces quelques versets que nous trouvons en Romains 1, versets 1 à 7. Voilà, tu peux revenir en arrière. Attends, ne touche rien, d'accord ? Non, mais ça, c'est un problème de télécommande en fait. Voici, voilà. Voilà. Romains 1, 1 à 7, donc Paul va exprimer ce qu'est l'évangile, c'est-à-dire que le Christ est ressuscité, qu'il règne et qu'il déploie son règne sur toutes les nations au travers de la mission de Paul et par extension au travers de la mission de l'Église. Et dans ces quelques versets, nous avons tout le testament, tout ce en quoi Paul croit et de façon embryonnaire dans ces quelques versets. Lisons les premiers versets, donc 1 à 7 de l'épître de Paul aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, donc c'est-à-dire selon sa nature humaine, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes, vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Une salutation, somme toute banale, dans le style et dans la forme, quand on la compare à la littérature du 1er siècle. Les salutations que Paul utilise sont les mêmes que nous utilisons aujourd'hui quand nous écrivons des emails. Bonjour, cher monsieur, etc., etc. C'est une façon classique de s'exprimer, mais Il ne faut pas oublier que derrière cette façon traditionnelle de s'exprimer, Paul est animé par le Saint-Esprit. Et Dieu utilise la façon courante qu'ont les hommes de s'exprimer pour parler au travers de Paul et présenter qui est Paul, quelle est sa mission et surtout au service de qui il est. Et au travers donc d'une phrase tout à fait banale, vous savez, quand on lit les épîtres, quand on lit la Bible depuis des années, il y a des choses comme les généalogies ou les introductions, les salutations de début, de fin. Bon, on sait que c'est toujours la même formulation, grâce et paix vous soit donnée de la part de Dieu. Bon, voilà, on le sait, et puis on passe à autre chose. C'est un petit peu comme quand on reçoit un mail, en général, la première phrase, je confesse que je ne la lis pas, en général, je vais tout de suite au corps du texte, ce qui m'amène parfois à faire des bourdes. Mais là, Paul explique quelque chose de précieux. Et je voudrais juste vous faire observer le texte. Paul dérape dans ce texte, comme il le fait souvent. Paul est quelqu'un, quand il écrit, qui brûle et qui sait où il va. Sa pensée est toujours extrêmement structurée. Mais il n'hésite pas à élargir le chemin de sa pensée pour après revenir et conclure, parce que tous les mots qu'il utilise le poussent à développer sa pensée, parce que pour lui, c'est d'une richesse incroyable. Et si on voulait lire vraiment ce que Paul dit, nous lirions le début, c'est-à-dire le verset 1. Et vous voyez, il y a un petit trait qui est marqué ici sur le texte que vous avez, qui est dans certaines Bibles, pour signifier qu'on a affaire à une aparté. Et Paul, si on voulait résumer sa pensée, dit ceci. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Voici une salutation naturelle. Mais à partir du moment où Paul s'est présenté, et il parle de cet évangile pour lequel il est mis à part, eh bien, il veut développer. Voilà ce qu'est cet évangile, et voilà en quoi consiste ma mission. Et ensuite, il revient à sa salutation. Et donc, je voudrais simplement souligner avec vous quatre parties que nous avons dans ce texte. La première est celle de la présentation de Paul. Comment est-ce que Paul se présente dans ces quelques mots? Et vous allez voir que c'est des mots banals, des mots que nous avons l'habitude de lire quand nous connaissons la Bible et dont nous oublions souvent le sens qui pourtant est vraiment profond. Et puis, ensuite, après s'être présenté, vous le voyez à partir du verset 2, Paul va développer ce qu'est cet évangile. Et puis, il va reprendre sur quelle est sa mission, en quoi consiste ce fameux apostolat, cette mission que lui a reçue. Et enfin, il va adresser quelques mots d'encouragement à ses lecteurs. Donc, c'est quatre parties, quatre morceaux que nous avons, que nous allons découvrir ensemble. Regardez comment Paul se définit. Paul, serviteur, qui peut être traduit comme esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part. Qu'y a-t-il derrière ces quelques mots que nous avons? Paul se définit avant tout comme serviteur. Ce terme serviteur peut être traduit tout à fait légitimement comme esclave. Et Paul vivait dans une double culture, une culture juive et une culture romaine. Et dans la culture romaine, être esclave est vraiment connoté négativement. Dans la culture juive, pas tellement que ça. Ça peut être aussi quelque chose d'honorable d'être serviteur, d'être esclave de quelqu'un. Et il semblerait que Paul utilise exprès ce mot pour souligner plusieurs choses. La première, c'est qu'il appartient à un maître. Il ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à quelqu'un qui est Jésus-Christ. Voici comment Paul se définit avant tout. J'appartiens à Jésus-Christ. Mais serviteur, être serviteur de Jésus-Christ n'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Il ne faudrait pas tirer cette conclusion-là. L'esclavage de Jésus n'est pas un déshonneur. La nature du service que Paul a envers Christ n'est pas lié à son identité, parce qu'on va le voir comment Paul développe son identité plus tard et développe l'identité des chrétiens. Il ne faudrait pas résumer l'identité chrétienne à simplement être serviteur de Jésus-Christ. Cela a été dit dans des prières. Nous sommes aussi appelés ses amis. Nous sommes ses frères. Nous sommes adoptés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes, vous voyez, il y a tous ces qualificatifs qui représentent autant de facettes de notre identité, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Paul ici utilise le mot serviteur, non pas pour simplement parler de son identité, mais pour parler de sa mission. Il est un serviteur à qui on a délégué une mission, il parle de sa vocation, celle d'être mis à part, celle d'être appelé apôtre pour l'Évangile. Dieu l'avait révélé, cette chose-là, cet élément-là, cette mission-là, à Paul dès sa conversion. Stéphane, un des anciens, a enseigné sur la conversion de Paul il y a quelque temps. Moi-même, je l'avais fait il y a quelques années. Et nous voyons que quand Paul a été sauvé par Jésus-Christ, que Jésus-Christ s'est révélé à lui, en même temps, Jésus-Christ lui a dit « Voici à quoi moi je te destine. Tu vas me servir auprès de toutes les nations. » Et vous pouvez trouver ça aussi dans l'Épître aux Galates et dans d'autres endroits. Ensuite, Paul utilise le mot « apôtre ». Apôtre, à la base, est un mot qui veut dire simplement être mandaté par une autorité, envoyé pour annoncer un message de la part d'une autorité. Un petit peu l'image d'un ambassadeur. Quand un ambassadeur va dans un pays étranger, il est envoyé et il représente la parole de son roi ou de son président. C'est la même chose. Et puis, c'est devenu, à force, avec le temps, aussi un terme technique. Quand on est apôtre de Jésus-Christ, on n'est pas un envoyé comme les autres. On est envoyé parce qu'on est envoyé par une personne qui n'est pas comme les autres. On est envoyé par Jésus-Christ. Jusque-là, je pense que pour la majorité d'entre nous, quand nous lisons le Nouveau Testament, je ne vous apprends rien. Mais je voudrais faire remarquer quand même une chose. Vous ne trouverez pas dans les Écritures l'expression « l'apôtre Paul ». Ha ha ! Je suis fier parce que je me suis piégé moi aussi et j'ai découvert ça il y a peu de temps. L'apôtre Paul n'est pas une expression biblique. En revanche, vous trouverez dans toutes ces salutations l'ordre suivant. Paul, apôtre. On pourrait croire que je cherche à gratouiller sur des petits détails du texte. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important et que c'est nécessaire de souligner cela. Naturellement, nous avons tendance, nous tous, à fonder notre identité sur nos compétences, notre titre, notre diplôme, comment la société nous voit, ce qui nous met le plus en valeur. Et nous devons faire attention avec cette façon de se présenter. Souvent, on voit à la télé ou dans une faculté qu'on pourrait croiser ou au quotidien, il y a professeur, ceci, ou le président, etc., le docteur Tartampion, etc., etc. Par contre, on n'entendra jamais l'aide-soignant Jean-Charles, la caissière Micheline, ou le secrétaire, la secrétaire, voilà. Comme quoi certains métiers, certaines qualifications, on préfère les mettre devant un petit peu comme une particule, parce que c'est quelque chose qui nous met en valeur. Et c'est exactement pareil dans l'Église. Pasteur, un tel, docteur, etc. Ou même, certains n'hésitent pas à s'appeler eux-mêmes apôtres, etc., etc. Okay. Monseigneur, ceci, etc. Bon, bref, vous avez compris là où je veux en venir. Si nous le pouvions, nous nous donnerions tous, devant les autres, le meilleur rang possible pour nous présenter et asseoir notre autorité. Paul, lui, se considère comme Paul. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas à mettre en avant son autorité ou son statut, mais sa mission. Il n'a pas gagné un titre, il n'a pas gagné une particule de noblesse face aux autres chrétiens dont il se sentirait, lui, au-dessus, mais il lui a été confié en tant que serviteur une mission, celle de l'apostolat. Celle d'être mandaté pour parler de celui à qui revient tous les titres, du seul qui a l'autorité. Et je crois que ce n'est pas du tout anodin la façon dont Paul parle et la façon dont nous, naturellement, dans les églises, et ça vient souvent de ceux qui sont en place de responsabilité, inverse. Alors, j'ai rien contre l'usage de l'apôtre Paul. Je dis moi-même tout le temps l'apôtre Paul, bon, c'est pas un problème, mais vous voyez où je voulais en venir. Enfin, Paul souligne qu'il est mis à part pour l'Évangile. Au moment même où est parvenu à Paul cet Évangile, cette rencontre avec Christ, au moment où il a compris qu'il lui appartenait et que Jésus lui a dit que ça allait être son instrument de choix pour annoncer, Paul a associé et a compris qu'il était sauvé et mis à part, délégué, envoyé pour servir. Je pense que cet élément aussi doit nous interroger, nous, 2000 ans plus tard, même dans notre façon de parler de ce qu'est la vie chrétienne. Nous avons tendance à dissocier ce qu'on appelle la conversion, être sauvé, et nous disons « je veux être sauvé », de l'engagement. Je veux être sauvé et dissocié de « je veux servir ». Mais dans la façon dont la Bible présente le salut, nous sommes sauvés, mis à part, c'est-à-dire consacrés à servir celui qui nous a sauvés. Si Christ nous sauve, c'est pour que nous lui appartenions. Et c'est une joie, et Paul le présente comme ça au verset 5, plus loin, c'est une grâce de pouvoir servir celui qui nous a rachetés, parce que nous découvrons et nous expérimentons la plus belle des vies qui soit quand nous la mettons au service de Jésus-Christ. Et en tant que nous-mêmes ici, Église à Grenoble, nous devons faire attention dans la façon dont nous avons de parler du salut. Jésus n'est pas simplement celui qui nous sauve et puis tu continues ta vie comme tu veux, tu as été sauvé, c'est bien, tu es pardonné, c'est super, il y a une réconciliation, c'est génial, et puis tu continues. Non, si tu es sauvé, que tu es passé par les eaux du baptême, que publiquement tu as dit à toute l'assemblée que tu appartenais à Jésus-Christ, que tu reconnaissais sa seigneurie, et que dans ta vie, mois après mois, année après année, on ne constate pas d'engagement pour l'Évangile. Il y a une anomalie, une profonde anomalie qui devrait même peut-être pousser certains à reconsidérer leur compréhension de ce qu'est le salut et de comment est-ce qu'eux l'ont reçu. Vous savez, quand un joueur de foot est naturalisé, qu'il joue pour son pays, son nouveau pays qu'il a acheté, je sais que par exemple il y a un Brésilien qui a été naturalisé pour la Russie et qui jouait encore hier soir, il jouait pour la Russie, eh bien, il porte le maillot de la Russie, il joue pour la Russie, il est engagé, il mouille le maillot, comme on aime bien dire dans le foot, il a mouillé le maillot pour son pays. Eh bien, c'est la même chose. Quand Christ nous revêt de notre salut, qu'il nous sauve et qu'on lui appartient, qu'on rentre dans son royaume et qu'on porte comme si on portait son uniforme, eh bien, là doit se voir par nos engagements. Je ne parle pas d'engagement à temps plein, d'être apôtre et de partir auprès des monks annoncer l'évangile à l'autre bout du monde. Mais dans notre vie quotidienne, est-ce que cela se voit que nous appartenons à Jésus-Christ? Enfin, Paul passe à sa définition de l'évangile. L'évangile, premièrement, Paul dit qu'il est annoncé, il avait été promis auparavant, c'est-à-dire que non seulement l'évangile qu'il annonce à des gens qui étaient d'arrière-plan juif, qui habitaient à Rome, et des personnes qui n'étaient pas d'arrière-plan juive, mais simplement qui s'étaient tournées vers Christ. Paul leur dit celui en qui vous croyez, s'appelle Jésus-Christ, et l'évangile, l'œuvre qu'il a fait, a été annoncée et elle était promise dans tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans toute cette première moitié des Écritures. la rencontre personnelle qu'a fait Paul avec Jésus-Christ a transformé complètement sa vision et sa compréhension des Écritures, des Saintes Écritures. Donald Cobb, un professeur de Nouveau Testament et spécialisé sur la vie de Paul, a fait remarquer dans un article que j'ai lu, j'ai vraiment été surpris, il démontre comment dans le texte de Actes 9 qui raconte la conversion de Paul, nous retrouvons de façon embryonnaire, en synthèse, tout ce que Paul va développer dans tous les livres du Nouveau Testament. Cette rencontre l'a appelé à redécouvrir et à comprendre à nouveau quelle était l'histoire de Dieu et l'histoire du peuple d'Israël. Paul était un spécialiste de la Torah et pour lui, jusqu'à sa rencontre avec Jésus, les nations, c'est-à-dire tous les peuples, étaient invités à rejoindre le plan de Dieu, mais à la fin des temps, vraiment, quand le Messie reviendrait, alors il y aurait la résurrection de tout le monde et l'établissement du règne de Christ, enfin du Messie, pour toujours. Et quand Paul a rencontré Jésus-Christ ressuscité, il a compris que la résurrection ne se passait pas simplement à la fin des temps, mais cette ère-là de vie nouvelle était inaugurée par la résurrection de Christ, et qu'à partir du moment où Christ était ressuscité, le message devait être annoncé à toutes les nations parce que la résurrection était possible pour tous les hommes, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs, s'ils se confiaient en Jésus-Christ. Et donc pour Paul, l'Évangile, au cœur de l'Évangile, il y a la personne de Jésus-Christ. L'Évangile est avant toute autre chose au sujet de Christ lui-même. Les chrétiens ne croient pas en un système doctrinal. Les chrétiens croient en une personne, Jésus-Christ. Et Paul va donc démontrer qui est ce Christ. Et en deux phrases, il va expliquer une doctrine qui est encore complètement mystérieuse pour nous. C'est que Christ existe, né de la descendance de David selon la chair, c'est-à-dire qu'il est 100% humain et qu'il avait été annoncé dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel chapitre 7, au roi David qu'un jour, de sa descendance, un de ses enfants serait Dieu fait homme qui régnerait éternellement. 100% homme, un descendant de David, mais en même temps Dieu. Et Paul rajoute, en plus d'être fils d'un homme, il est le fils de Dieu par la démonstration de sa résurrection, qui est l'attestation et l'honneur qui lui est rendu par Dieu pour sa mort à la croix et d'avoir accompli tout le plan de Dieu. Jésus, 100% homme, 100% Dieu, dans une seule et même personne. Ce qui avait été caché pendant le temps de la vie sur terre de Jésus, jusqu'à sa mort sur la croix, est devenu manifeste et est pleinement révélé maintenant qu'il est ressuscité. C'est la preuve, le témoignage public est désormais Christ ressuscité que Paul a rencontré personnellement. Ce Christ ressuscité, Paul l'appelle ainsi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, que Jésus est Seigneur, les chrétiens ont l'habitude de le dire et de l'affirmer. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand Paul utilise cette expression en grec, ça veut dire, il dit que Jésus est Kurios. C'est le terme de Christ, le terme de Seigneur. Dans l'Ancien Testament qui avait été traduite en grec et que Paul lisait et utilisait souvent, c'était le même mot qui était utilisé pour parler de l'Éternel. Jésus-Christ est Dieu. Cet homme qui est ressuscité est Dieu. Et en plus, il règne. Paul a compris que Jésus règne, qu'il est notre Seigneur et que parce qu'il a accédé à son trône, parce qu'il est ressuscité, il est entré dans son règne et Paul comprend que celui qui est ressuscité déploie son règne maintenant vers toutes les nations en envoyant son peuple, Israël, et tous ceux qui croient en lui vers toutes les nations. Et c'est pour ça que Paul embraye sur ce Jésus qui est celui qui lui a confié cette mission, qui est laquelle ? Celle de conduire toutes les nations à l'obéissance de la foi. Pour Paul et pour nous, l'Évangile ne doit pas être simplement l'annonce du pardon pour les péchés. Résumé simplement à ça, Dieu te pardonne. Jésus, il est mort et toi, tu étais mauvais et Dieu te pardonne. Oui, c'est vrai si tu places ta confiance en Jésus pour être sauvé. Mais l'Évangile parle du Christ qui est ressuscité, du Christ qui nous appelle parce qu'il est ressuscité et qu'il offre le salut, qui appelle tous les hommes à fléchir le genou devant lui et reconnaître sa seigneurie. L'Évangile n'est pas simplement l'annonce du pardon, mais l'annonce du règne, l'annonce de l'autorité, l'annonce du roi Jésus qui nous appelle et qui nous offre ce cadeau merveilleux d'être pardonné et de rentrer dans son royaume. Et donc, la mission de Paul consiste à faire en sorte que l'annonce de l'œuvre du Seigneur promise est maintenant accessible à toutes les nations et Paul souhaite que ses lecteurs, les Romains, comprennent ceci. L'Évangile proclamé est le moyen par lequel le Christ ressuscité exerce et fait grandir son royaume vers toutes les nations. Et toutes les personnes qui reçoivent Jésus pour leur pardon sont appelées à lui obéir. Et le synonyme le plus proche dans la Bible du mot foi est le mot obéissance. Enfin, Paul parle de ces, il revient à sa pensée d'origine et il parle à ces personnes-là, à ces Romains qu'il ne connaît pas encore mais qu'il va visiter. Et il leur explique, Christ a appelé tous les hommes, appelle tous les hommes à l'obéissance de la foi. Et vous qui êtes à Rome, eh bien vous faites parmi de celles et de ceux qui ont été sauvés. Parce que Christ règne et qu'il veut être adoré, eh bien l'Évangile est venu jusqu'à vous et vous y avez répondu. Et aujourd'hui, vous aussi, tout comme moi, vous lui appartenez. Vous êtes mis à part, vous êtes appelé saint parce que vous êtes l'objet de l'amour de Dieu. Et Paul veut leur souligner que toutes les nations doivent être au courant de la résurrection de Christ et de son règne, afin qu'ils vivent à la louange de Christ, afin qu'ils vivent pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, dans sa vision de la mission, connecte toujours l'adoration qui est due à Dieu avec la mission de Dieu. John Piper, un auteur américain, a écrit un livre sur la mission et a revisité la mission avec un angle qui est merveilleux. Piper résume ainsi la mission dans l'Esprit de Dieu. La mission est là où l'adoration n'est pas. Parce que Dieu est digne d'être adoré par tous les hommes. Alors il envoie l'Évangile au travers de son peuple, qui doit être annoncé pour que toutes les nations se réjouissent en Dieu et lui donnent l'adoration qui lui est due. Et donc, ces chrétiens, parmi lesquels sont ceux qui sont à Rome, sont appelés des bien-aimés. Et ils sont tous appelés, comme Paul a été appelé, et par l'emploi de ces termes, Paul dit quelque chose d'important et qui nous passe un petit peu au-dessus encore quand on le lit comme ça, mais quand on comprend bien la situation de ces chrétiens-là, eh bien, Paul, en fait, utilise des mots qui étaient réservés au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous êtes des bien-aimés. Les bien-aimés de Dieu, c'était l'Israël. les appelés, c'était le peuple qui avait été appelé par Dieu en dehors d'Égypte, c'était Israël. Et les saints, c'était ceux qui étaient mis à part, mais ne pas comprendre mis à part comme mis de côté où Dieu se met dans sa poche, mais mis à part, c'est-à-dire consacré, des personnes que Dieu met à part pour qu'ils puissent le servir, destinés à le servir. Eh bien, Paul dit qu'aujourd'hui, par le règne et la résurrection de Jésus-Christ, juifs, non-juifs, qui sont à Rome, sont tous appelés, sont tous objets du même amour de Dieu et font tous partie d'un même peuple. Et quand on entend appeler, il ne faut pas s'attendre à un appel comme nous on comprendrait, où je te lance un appel et tu me réponds si tu veux, ou comme une invitation. C'est la même expression d'un appel efficace, d'un Dieu qui arrache du royaume des ténèbres pour transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé, comme il le dit dans l'Épître aux Colossiens que nous avons vu en introduction de ce texte. Paul, je crois, veut souligner que ce qui le concerne lui, avec sa mission spécifique, son identité propre, concerne dans une certaine mesure tous les chrétiens. Paul est appelé, nous sommes appelés. Paul est consacré, nous sommes consacrés. Paul est appelé à être saint, nous sommes appelés à être saints. Et la sainteté, encore, est un mot à double facette. Il y a une facette qui est morale, nous sommes appelés à refléter les caractéristiques morales parfaites de Dieu. Le rejet du mal est simplement exprimer ce que Dieu démontre, la sainteté, et en même temps la vocation, saint, c'est-à-dire consacré à un service. Dieu nous rachète pour nous transformer et nous utiliser et pour nous mettre à son service. Encore une fois, il y a une application pour nous. La profession de foi chrétienne n'est pas constituée d'une connaissance théorique, d'une compréhension analytique, d'une philosophie ou d'une religion et d'un système de valeurs et de dogmes. La foi chrétienne est caractérisée fondamentalement par la confiance, la foi en une personne, Jésus-Christ, morte et ressuscité, à qui nous appartenons. Et la démonstration de l'authenticité de cette foi, eh bien, c'est un engagement et une proclamation par la parole, mais par la façon de vivre que Jésus-Christ est Seigneur. Et voici qu'est-ce que cela pousse Paul à demander pour eux dans une prière. Il demande à Dieu et à Jésus-Christ qu'envers les chrétiens de Rome, qu'ils puissent recevoir la grâce et la paix. Pas une grâce initiale comme s'ils ne l'avaient pas déjà reçue, mais qu'ils fassent une expérience renouvelée de la grâce de Dieu en redécouvrant qui est Jésus-Christ et que cette grâce redécouverte engendre une paix en eux. Dieu et Jésus, rendons-nous compte simplement juste de cela. Dieu le Père et Jésus, au travers de la main de Paul, s'adresse à toutes celles et ceux qui croient que Jésus-Christ est ressuscité. Ce Dieu nous dit, à nous, à Grenoble, ce matin, que la grâce et la paix vous soient données de notre part. Dieu, par sa parole, en nous rappelant qui est Jésus-Christ, veut que nous fassions l'expérience renouvelée de la grâce et de la paix qu'elle engendre. Quand nous pensons à l'Église, quand nous prions pour l'Église, quels sont les sujets de prière? Eh bien, simplement, si vous ne savez pas comment prier pour votre Église, et que vous êtes là simplement en mode liste de courses, alors un tel, etc., une liste de choses et de tâches, ce qui est une bonne chose de prier pour les gens. Mais derrière toutes ces prières dépendent une prière, celle que l'apôtre Paul fait. prions pour l'obéissance à la foi, à la mission d'être envoyé comme témoin auprès de toutes les nations. Prions pour que l'Église fasse une expérience renouvelée de la grâce et de la paix au sein de sa communauté. Et donc, pour conclure, je voudrais vous rappeler ceci. L'Évangile pour Paul, la façon dont il le présente, est que le Christ est ressuscité. Paul l'a rencontré et le présente ainsi. Promis par les Écritures, c'est accompli. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité et il a commencé à régner. L'Évangile est que Christ est ressuscité et que désormais, il déploie son règne en nous envoyant parmi toutes les nations, à les appeler à obéir à la foi. Alors, comprenons que l'Église, dans son identité avant tout, est le fruit du règne de Christ qui se déploie, qu'elle grandit et qu'elle vit, qu'elle s'enracine et qu'elle porte du fruit quand elle vit cet évangile. Et attention de ne pas réduire l'annonce de l'évangile ou notre compréhension entre nous de l'évangile à simplement l'annonce du pardon, mais comme l'annonce de la victoire de Christ sur la mort, sur Satan, sur le péché et son règne et ce Christ vivant qui par son autorité et par la puissance de l'évangile qui nous rappelle ces faits-là de sa mort et de sa résurrection est capable de nous arracher et de nous conduire à l'obéissance. À lui la gloire. Amen.